Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Après nous avoir emmenés au cirque, Franck Ferrand est de retour rue François 1er, mais c'est un sujet grave qu'il évoque aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'histoire de France est tissée de dates plus ou moins glorieuses. Celle dont on va célébrer le cinquantenaire lundi prochain, la date du 17 octobre 1961, fait partie de celles dont il n'y a pas lieu d'être fier. Du reste, les événements survenus cette nuit-là à Paris ont été soigneusement occultés durant des décennies.
Et les événements dont vous parler appartiennent à ce que l'on a appelé les ratonnades d'octobre.
Oui, et leur évocation peut servir de sanglant préambule au 50e anniversaire de l'indépendance algérienne. Un anniversaire, vous savez Julia, qui va probablement, même très certainement, marquer l'année à venir. Dieu sait que l'histoire de Paris a connu quantité d'épisodes sanglants, de la Saint-Barthélemy à la semaine sanglante de 1871, au moment de la répression de la Commune. Eh bien, celui dont nous allons parler est à la fois très récent et assez peu connu.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Octobre 1961, il y a 50 ans. La guerre d'Algérie est en train de s'achever après 7 ans de combats plus ou moins assumés et plusieurs centaines de milliers de morts. Le 8 janvier précédent, en effet, par référendum, les Français comme les Algériens ont massivement ratifié la politique d'autodétermination de l'Algérie, politique proposée par le général de Gaulle. Et dans la foulée, des négociations ont commencé entre des représentants du gouvernement français et le FLN algérien. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. La volonté d'aboutir du président français est sans faille. Et du reste, le général de Gaulle pilote personnellement l'ensemble des opérations. Mais ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est qu'au sein même du gouvernement, la politique d'autodétermination est loin de faire l'unanimité. Si des personnalités comme Louis Jox, évidemment, c'est l'homme chargé des négociations côté français, ou comme Edmond Michelet, le garde des Sceaux, soutiennent la ligne du général, en face, d'autres hauts et même très hauts responsables, à commencer par le Premier ministre, Michel Debré, sont ulcérés à l'idée d'abandonner l'Algérie. En tout cas, de l'abandonner de cette manière. De cette intime dissension gouvernementale va naître une situation qui, notamment sur un plan policier, va devenir explosive. Alors que le ministre de la Justice, Edmond Michelet, a donc démissionné le 23 août, le ministère de l'Intérieur est aux mains de Roger Frey à ce moment-là. Et Roger Frey soutient la posture très dure adoptée par le préfet de police de la Seine à l'égard des Algériens de la région parisienne. Ce préfet de police s'appelle Maurice Papon. Autant dire un ennemi acharné du FLM qui, lorsqu'il était préfet du Constantinois, un préfet doté de pouvoirs étendus, avait mené une politique ultra-répressive. Maurice Papon fait partie de ceux qui aimeraient voir capoter les négociations en cours et en cet automne 1961, il se montre intraitable à l'égard des immigrés algériens qu'il entend contrôler, maîtriser par l'intermédiaire notamment d'un service de coordination des affaires algériennes installé à la préfecture de police. Dès le mois de décembre 59, a été institué, avec la bénédiction de Matignon, une force de police auxiliaire, la FPA, composée d'Algériens souvent transplantés sauvagement, directement de leur campagne natale. Ils sont basés au fort de Noisy-le-Sec et ils encadrent étroitement, c'est un euphémisme, la population algérienne immigrée qui est très favorable au FLN. Les méthodes employées par la FPA sont pour le moins musclées, arrestations arbitraires, interrogatoires violents, notamment dans les 13e et 18e arrondissements où se concentrent centre la population algérienne à l'époque. Après la démission de Michelet, des équipes spéciales composées de policiers en civil se lancent dans une violente campagne d'intimidation des Algériens vivant en région parisienne. Alors évidemment, De nombreux journaux ont dénoncé à l'époque ces exactions, surtout dans la presse de gauche et d'extrême gauche, mais pas seulement. Le Figaro lui-même s'en est fait l'écho à l'occasion. La tension monte et la violence. Le FLN, qui de son côté n'est pas réputé pour faire dans la dentelle, s'en prend à des membres de la FPA qui sont retrouvés morts. Et du reste, alors que le FLN appelle ses militants à essayer de provoquer des désertions dans les rangs de la FPA, les autorités constatent une multiplication des désertions au sein de cette force spéciale. À l'échelle diplomatique, le 2 octobre 1961, le FLN propose de reprendre les négociations avec le gouvernement français à Évian, des négociations qui donc doivent reprendre au printemps suivant, en 1962. Il faut vous dire que ces négociations avaient été interrompues à la suite d'un grave désaccord sur le sort du Sahara notamment. Pour les hauts responsables français opposés à l'indépendance algérienne, c'est un peu l'heure de la dernière chance.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous rouvrons aujourd'hui sur Europe 1 un dossier tabou, celui des événements parisiens du 17 octobre 1961.
Et à ce moment-là, pour les hauts responsables français opposés à la reprise des négociations avec le FLN, la pression monte. Et c'est dans ce contexte, bien sûr, qu'il faut replacer le durcissement de la position de Maurice Papon, du préfet de police. « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 », a-t-il lancé lors d'un discours prononcé le 2 octobre sur le cercueil d'un gardien de la paix assassiné par le FLN. De fait, les mesures prises par Papon le 5 octobre ressemblent à des mesures de guerre, notamment... Le préfet de police instaure un couvre-feu visant exclusivement les Français musulmans d'Algérie, c'est-à-dire les Algériens qui vivent en région parisienne. Couvre-feu à 20h et qui vise en particulier les cafés qui pourraient servir de lieu de réunion. Alors pour des raisons constitutionnelles évidentes, le terme de couvre-feu n'est pas employé. La circulaire parle de vives recommandations, mais on sait ce que ça veut dire. Vous saisissez le paradoxe. C'est donc au moment où un accord est sur le point d'être trouvé au niveau gouvernemental que dans la rue, la violence va connaître un comble. Et vous allez voir que dans la nuit du 17 octobre, de ce point de vue, on peut vraiment parler d'un comble. La Fédération de France du FLN ne pouvait pas rester sans réagir à l'instauration de fait d'un couvre-feu discriminatoire ordonné par la préfecture de police. Assez vite s'impose l'idée d'une riposte, une riposte qui doit être massive mais pacifique sous la forme d'une grande manifestation à Paris même. Le but de cette manifestation de masse, c'est de prendre à témoin une opinion publique qui, dans son immense majorité, ignore absolument tout des opérations d'intimidation et des mesures de police mises en place depuis quelques mois. C'est une grosse organisation qui donc se met en branle, une organisation qui se révèle parfaitement réglée. Dès le samedi 14 octobre, tous les militants sont sommés de rester en contact étroit avec leurs responsables et dans la soirée du lundi 16, les directives précises sont transmises, ainsi que les slogans de la manifestation. Abat le couvre-feu, naturellement, mais aussi négocier avec le GPRA, vive le FLN, Algérie indépendante et libérer nos détenus. Donc une grosse manifestation pacifique et là-dessus, les consignes sont tout à fait claires, mais une manifestation très politique, très engagée en faveur du FLN. C'est bien le FLN in fine qui organise. Les points de réunion sont tous les nœuds de circulation dans Paris, hein, la Concorde évidemment, mais aussi l'Étoile, l'Opéra, la République, la place Saint-Michel, le carrefour d'Alésia. Ce qu'il faut souligner tout de suite, c'est l'ampleur de l'adhésion de la part des militants. 95% d'entre eux, peut-être même davantage, semblent avoir répondu présent. Et l'on voit dans cette soirée grise et pluvieuse, dans cette soirée très automnale du mardi 17 octobre, on voit violent massivement les consignes de couvre-feu affluer vers le centre de Paris des milliers de manifestants algériens. Combien sont-ils ? 35 000, 40 000, 50 000 ? Difficile d'établir une estimation très précise. Ce qui est sûr, c'est que c'est une marée humaine qui converge sur la capitale et qui court se jeter dans la gueule du loup.
extrait sur Europe 1 du Roméo et Juliette de Prokofiev. Franck Ferrand nous relate aujourd'hui les ratonnades d'octobre. Restez avec nous, il revient dans un court instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand relate aujourd'hui sur Europe 1 les événements parisiens du 17 octobre 1961 au cours desquels des dizaines de manifestants algériens ont été assommés, jetés à la Seine. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, on attend vos réactions au 39-21.
Le terme événement, Julia, vous savez, est un mot, c'est un euphémisme en fait, qui permet de couvrir bien des choses et notamment bien des exactions. Voici ce qu'on peut lire sur un tract pro-FLN de l'époque. C'est une relation collective des événements de la part de Parisiens non algériens, témoins du drame. Le tract s'intitule « Est-ce bien sûr ? Il n'est pas direct, il n'est pas daté. » Ébahis et silencieux, disent les témoins en question. Les voyageurs, alors on est à la, pardon, je devrais vous préciser qu'on est à la bouche de métro Concorde, s'arrêtent en descendant du métro. Sur le quai, en face, des centaines d'Algériens sont là, serrés les uns contre les autres, les mains au-dessus de la tête, entourés de policiers armés. Lentement, les voyageurs reprennent leur chemin, tournant la tête pour regarder encore une fois cette masse d'hommes. Tout d'un coup, nous entendons, venant de l'un des couloirs qui mènent à la station, des cris de douleur. Cherchant à voir d'où ils viennent, nous entendons, venant d'un autre côté, des cris suivis d'applaudissements. Intrigués, nous nous dirigeons dans cette dernière direction. Toutes les issues sont gardées par des agents. Nous prenons au hasard un sens interdit qui nous mène sur les lieux. Là, le spectacle est extraordinaire. Une centaine d'Algériens, peut-être plus, groupés en cercle, crient « Vive l'Algérie algérienne !» et applaudissent, recommencent « Vive l'Algérie algérienne !» et applaudissent encore. Des policiers les entourent, braquant sur eux leurs revolvers. Certains sont juchés sur la rampe de l'escalier mécanique. Les Algériens continuent leurs hurrahs et leurs applaudissements. Nous nous approchons du groupe. Les policiers nous repoussent. « Partez, ici ça va canarder !» Ils ouvrent l'une des issues qu'ils gardent. Là, c'est un autre spectacle. Une file interminable d'Algériens passe, tous les mains sur la tête. Ils subissent au passage, tous les 2 ou 3 mètres, coups de matraque et coups de pied des policiers. Leurs têtes sont en sang. Nous avons même vu un bâton se briser sur une tête. Le défilé continue, continue, combien d'hommes ? Et les coups pleuvent, sans arrêt, des matraques qui tourbillonnent. Quelques Français veulent intervenir. Ils s'éloignent sous les menaces des policiers. Cette relation anonyme n'est qu'un minuscule aperçu du genre de scènes qui vont se répéter un peu partout dans Paris, à tous les points de concentration de ces manifestants pro-FLN. Ce qui se passe du côté de la préfecture de police est important. Voici le témoignage indirect d'un gardien de la paix rapporté par le journal Vérité Liberté. C'était une feuille très engagée, cofondée par Pierre Vidal-Naquet. On est là en novembre 1961, donc un mois à peine après les événements. Lorsqu'il est arrivé, on parle de ce gardien de la paix, lorsqu'il est arrivé pour prendre son service, la cour de la préfecture était pleine d'Algériens arrêtés dans la soirée. Les agents de police étaient très excités et mécontents. Ils avaient été impressionnés par les manifestations algériennes et certains qui avaient été surpris par la tournure grave des événements estimaient avoir été exposés sans organisation et sans ordre, ce dont ils faisaient grief au préfet de police. De leur côté, les Algériens, quoique très dociles, finirent par demander des explications sur leur sort. C'est alors que certains policiers eurent l'idée de faire une mauvaise plaisanterie à M. Papon. Ils ouvrirent aux Algériens la porte conduisant aux appartements privés de leur patron. Celui-ci crut à une mutinerie et à une menace contre sa personne. Il appela des renforts par téléphone. Il y eut alors un matraquage odieux où les policiers arrivés de l'extérieur et ceux qui étaient à l'origine de l'affaire conjuguèrent leurs coups, se servant notamment de bancs pour abattre les prisonniers. Il fallut ramasser de nombreux Algériens pour les charger dans les voitures de la police. En quel état étaient-ils ? S'ils n'étaient pas mort, dit notre informateur, c'est qu'ils avaient la carcasse dure. Ces témoignages sont extraits d'un ouvrage de Michel Lévin qui s'appelle « Les ratonnades d'octobre, un meurtre collectif à Paris en 1961 » et c'est publié par Jean-Claude Gozevitch. Alors, vous voyez que toute cette violence a tendance à converger. On sait que par cette nuit terrible, de nombreux corps ont été jetés à la Seine, ce qui rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres épisodes sanglants de l'histoire, évidemment, cette histoire tellement agitée de Paris. Combien ont été tués ? Comment ? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec mon invité Gilles Manceron. Pour ce qui est des chiffres, ils sont assez éloquents. Le nombre officiel des arrestations se monte à 11 538, ce qui est proprement énorme. Et ce qui explique que les forces de l'ordre, notamment, aient dû recourir à des bus de la RATP pour acheminer un certain nombre des personnes arrêtées. Le ministère de l'Intérieur fait état de 13 blessés dans les rangs de la police, tous légers. Côté manifestants, le nombre officiel de victimes à l'époque est de 3 morts et 64 blessés. Évidemment, ces chiffres sont effroyablement minorée. Combien y a-t-il eu de morts en vérité? Une vingtaine, comme l'a prétendu la presse de l'époque, ou beaucoup, beaucoup plus? Bien plus tard, le journal Le Monde, dans son édition du 10 février 1982, évoquera, s'appuyant sur des sources proches de l'Institut médico-légal, évoquera le nombre de 200 morts. Ça paraît énorme, mais certains n'hésitent pas à envisager un bilan encore plus lourd. Que peut dire, avec ce recul du demi-siècle, l'historien de ces faits troublés? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans un instant avec notre invité qui s'est longuement penché sur la question. Gilles Manceron est avec nous et merci beaucoup d'être des nôtres. Vous avez signé la préface donc du 17 octobre 1961 par les textes de l'époque publiés au Petit Matin et vous avez établi une longue postface dans l'ouvrage Le 17 octobre des Algériens aux éditions La Découverte, un ouvrage de Marcel et Paulette Péju. On peut dire, Gilles Manceron, que vous connaissez par cœur le sujet, combien ont été les morts algérien au moment de cette nuit terrible du 17 octobre.
Il est difficile d'affirmer un nombre précis de victimes pour différentes raisons, parce que des gens ont été inhumés dans des cimetières parisiens sous les simples termes de inconnus. FMA, Français musulman d'Algérie, inconnu, sans nom patronymique. Parfois, on retrouve cette mention sur des registres d'hôpital ou des registres de l'Institut médico-légal. Donc, c'est très difficile. On peut établir une liste des disparus, si je puis dire, de cette période. Étant entendu aussi que des cadavres ont été découverts dans la Seine, des gens ont été tués dans les semaines qui ont précédé le 17 octobre 1961. Donc Jean-Luc Enaudi, par exemple, a établi une liste de 350 noms. Mais on ne sait pas s'ils correspondent effectivement à des gens qui ont été tués ou qui ont été tués au moment du 17 octobre précisément.
L'image qu'on a conservée, c'est celle de corps jetés à la Seine, évidemment. Nous revenons dans un instant sur cet aspect et essayons de démêler le vrai du faux dans cette histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Gilles Manceron, historien spécialiste du colonialisme français et l'un des responsables de la Ligue des droits de l'homme.
Un des grands ennemis du colonialisme, disons-le. Vous êtes, Gilles Manceron, donc l'un des grands historiens de cette question. Vous connaissez bien le sujet. Pendant très longtemps, on l'a totalement occulté. Nous allons voir d'où venait cette occultation. Ce qui est certain, c'est que pour ce 50e anniversaire, on parle pas mal de ces événements du 17 octobre 1961. Des municipalités comme Nanterre, comme Bagneux font des cérémonies. La ville de Paris, ça n'est pas la première fois du reste, va organiser un dépôt de gerbes, puisque le maire de Paris va déposer une gerbe devant la plaque commémorant ces événements, à l'angle du pont Saint-Michel et du quai du Marché Neuf. Ce sera donc lundi à midi et quart. On a mis cette plaque, comme par hasard, le long de la Seine, parce que, comme je le disais juste avant notre interruption, c'est bien cette image qu'on a, celle de cadavres emportés par la Seine.
Et repêchés un peu plus bas, en contrebas, pendant des semaines, dans les semaines qui ont suivi donc, cet événement. Effectivement, il y a des initiatives pour ce cinquantenaire. Les maires des communes de la banlieue ouest vont se rassembler au pont de Neuilly. Passe sur la partie dépendant de la commune de Neuilly, parce que le maire de Neuilly n'a pas voulu, mais l'ensemble des maires de la banlieue au-delà du fleuve vont faire un geste de ce point de vue-là. Et je crois que ce cinquantenaire marquera une nouvelle étape de cette reconnaissance.
Est-ce que justement, voilà, avec ces 50 ans, on ne pourrait pas dépasser le clivage politique évident là, sur une question comme celle-ci? Et admettre qu'il y a un fait historique et une occultation tout à fait incontestable. On a commencé à parler de ces événements 25 ans plus tard, pour le 25e anniversaire d'ailleurs. Donc on était là au milieu des années 1980.
Absolument. Il y a eu pendant 25 ans un silence complet, ni film, ni livre, ni article dans la presse, ni travaux universitaires non plus sur ces questions. Et donc,
en revanche, il y a eu des publications immédiatement après. près, hein, fin octobre, en novembre, jusqu'au début de l'année 1962, on voit circuler des feuilles, souvent anonymes, et puis il y a quand même quelques articles de presse qui se font l'écho de ce qui s'est passé de façon très atténuée, certes.
Oui, mais il y a la censure qui interdit un certain nombre d'ouvrages aux éditions François Maspero, par exemple, immédiatement après l'événement. Et puis, il y a un film qui a été, qui n'a pas eu de visa de censure, Octobre à Paris, qui va sortir d'ailleurs le 19 octobre sur les écrans avec une préface qui le contextualise. Donc, il y a eu un grand silence qui, à mon sens, renvoie à différents facteurs et différentes explications.
Nous allons y venir, évidemment, dans un instant. Disons un mot, évidemment, de Didier Deninx, du rôle de la fiction dans cette affaire.
Oui, Didier Deninx a publié, au milieu des années 80, un ouvrage, Meurtre pour mémoire, qui est un policier, un roman policier, dans la série noire, qui fait le lien entre le rôle de Papon pendant l'occupation à la préfecture de la Gironde, dans la déportation des Juifs, et la difficulté d'enquêter sur ce rôle exact, et le rôle qu'il a joué à la préfecture de police de Paris pendant cette période de la fin de la guerre d'Algérie. Donc il associe ces deux questions comme des questions difficiles à aborder, puisque c'est dans les années 80 les débuts des investigations sur le rôle de Papon à Bordeaux pendant l'occupation.
À l'époque, évidemment, en 1961, on ne parlait pas du tout du rôle de Maurice Papon dans ces affaires juives de la mairie de Bordeaux. Enfin,
Vingt ans plus tard, au début des années 80, le Canard Enchaîné publie les premières informations sur ce sujet-là. Et effectivement, ça a été un déclencheur aussi. Le procès Papon de 97-98, hein, le procès Papon à Bordeaux pour son rôle pendant la guerre, a été l'occasion aussi de parler du 17 octobre 61.
Alors, que du côté des autorités françaises en 1961, on ait voulu totalement étouffer ce qui n'est même plus une bavure à ce niveau-là, qui est un très gros problème, ça se comprend. Ce qui est étonnant, c'est que du côté algérien, on a fait de même.
Oui, c'est un des facteurs, un facteur secondaire, si je puis dire, par rapport à l'occultation des autorités françaises pour différentes raisons, par rapport à cet événement. Mais c'est un facteur qui a joué. Il me semble que du côté algérien, il y a aussi une volonté de ne pas parler de cet événement pour d'autres raisons qui relèvent des dissensions internes au sein du FLN, entre ceux qui prennent le pouvoir au moment de l'indépendance de l'Algérie, l'alliance Ben Bella Boumediene, et puis les opposants à cette alliance, qui sont notamment ceux de la Fédération de France du FLN.
Alors les derniers qui pourraient parler de ce qui s'est passé, ce sont les opposants au gouvernement de l'époque et au général de Gaulle, c'est toute la gauche française. Or on préfère parler d'un événement qui a lieu très peu de temps après, en février 1962, c'est la fameuse affaire de Charonne.
Oui, alors ça aussi c'est un facteur d'occultation à mon avis, dans la mesure où la gauche française et sa principale force politique, le Parti communiste, met l'accent sur la mémoire de Charonne, donc cette manifestation contre les attentats de l'OAS en février 62, pour la paix en Algérie et non pas pour l'indépendance. C'est un thème qui ne convenait pas au Parti communiste, par exemple, et qui n'était repris que par des franges comme les mouvements étudiants ou certains partis comme le PSU qui, eux, reconnaissaient la nécessité de l'indépendance. Donc, le Parti communiste met l'accent sur la mémoire de Charonne au détriment de la mémoire de cet événement d'une plus grande ampleur qui avait précédé de 5 mois, le 17 octobre 61.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra savoir exactement ce qui s'est passé, qu'on pourra écrire une histoire détaillée de chacun des aspects de cette répression très polymorphe et très étendue à l'échelle de la capitale entière, qu'on pourra faire notamment une liste des victimes très précise?
On pourrait certainement progresser dans la connaissance de cet événement et de sa préparation et de son déroulement. Certains fonds d'archives ne sont pas encore accessibles. Je pense par exemple aux notes prises lors des conseils des ministres par le secrétaire de la présidence de l'Élysée, Geoffroy de Courcelles, qui devraient permettre de comprendre mieux les réactions du général de Gaulle lui-même.
On aimerait bien savoir ce que le général de Gaulle a dit en conseil des ministres notamment. Ça, nous y venons dans un instant. C'est tout le contexte et c'est toute cette dissension interne au pouvoir même qui explique en fait ce qui s'est passé.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir.
Dans la gueule du loup, les têtes raides sur Europe 1, sur un poème de Kateb Yassine Franck.
Oui, c'est un poème de l'époque qui dénonce directement ce qui s'est passé et l'espèce d'aveuglement, la cécité dont ont fait preuve non seulement les témoins éventuels, mais tous ceux qui, par le biais notamment de la presse, auraient pu, auraient sans doute dû raconter les choses. Je faisais de l'aviron à la basse Seine à cette date, en octobre 61, nous dit Michel, et, ou deux ou trois jours après. Nous entraînions et j'ai pu voir des cadavres flotter après les écluses en amont. En faisant part à notre entraîneur, j'essaie de lire le message.
Vient, oui. Arrive,
il ouais. nous a dit qu'il s'agissait sûrement d'un suicidé. Il croyait peu à ces cadavres au pluriel. Ça rappelle d'autres périodes quasi médiévales. Gilles Manceron, on est vraiment dans.
Oui, c'est terrible parce que ces cadavres ont été signalés, vus par beaucoup de gens et on ne les croyait pas quand ils en parlaient ou eux-mêmes n'arrivaient pas à croire à ce qu'ils voyaient. Donc, c'est vraiment un déni ambiant.
On a cru à la version que la préfecture de police, que Maurice Papon a donnée aux médias et qui a été très, très, très largement répercutée dans toutes sortes d'organes, du reste. Parce que c'était la préfecture de police, donc c'était la
oui,
vérité.
Oui, c'était accrédité en même temps par le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, et les journalistes ont repris, comme ils le font souvent, des données qui leur sont communiquées dans des communiqués officiels. Et ils n'ont certainement pas croisé suffisamment leurs informations pour confirmer. Ils ont commencé à le faire dans les mois qui ont suivi, en novembre, décembre, en allant dans les bidonvilles pour interroger des gens, voir ce qui se passait vraiment. Et ce n'est qu'après qu'ils ont compris qu'il y avait eu vraiment une manipulation, une mystification.
Dans une émission au printemps sur le putsch des généraux avec Pierre Abramovici, nous avons eu l'occasion de voir à quel point le pouvoir gaullien de l'époque n'est pas d'un seul bloc, loin de là, ce que vous mettez en évidence, vous, comme une cause des violences policières, c'est la totale dissension au sommet de l'État entre les partisans d'une poursuite des négociations avec le FLN et ceux qui, au contraire, voulaient freiner des quatre fers. Et parmi eux, le Premier ministre en personne, Michel Debré.
Tout à fait. Le Premier ministre n'est pas d'accord finalement avec ses choix du général de Gaulle dans sa politique algérienne. Et il n'est plus responsable du dossier, il n'est plus en charge de ce dossier-là. Donc il ne peut peser sur cette politique que par le biais d'un secteur qu'on lui laisse, dont on lui laisse la responsabilité,
qui est le maintien de l'ordre
en France métropolitaine.
Et donc, il lui faut là un certain nombre de relais. Évidemment, Roger Frey en fait partie.
Roger Frey est nommé par lui, ministre de l'Intérieur, en mai 61, moment où s'ouvrent les négociations d'Évian, il remplace Pierre Châtenay.
Tant que Edmond Michelet a été garde des Sceaux, il y avait en quelque sorte un garde-fou, si je puis dire, qui saute à partir de la fin du mois d'août 61.
Tout à fait. Alors Edmond Michelet est un verrou encore plus sérieux par rapport à ses velléités du Premier ministre de mener une guerre contre le FLN et contre l'immigration, puisqu'il s'oppose à l'emploi de la torture, par exemple, par la force de police auxiliaire mise en place par Maurice Papon au sein même de la capitale. Et il est pour de bonnes relations avec un certain nombre d'avocats, ou du moins pour leur laisser faire leur métier. Des gens comme Paul Tedjène, par exemple, qui est nommé au Conseil d'État, est apprécié par par Edmond Michelet. L'un et l'autre sont d'anciens résistants et sont de milieux catholiques attachés à un certain nombre de valeurs morales qui les amènent à refuser l'emploi de la torture, comme quelqu'un comme le général de Bollardière, par exemple, aussi, pendant la bataille d'Alger. Donc, Michelet est un adversaire de la politique du Premier ministre et Debré finit par obtenir son départ fin août 61.
Il nous reste très peu de temps, mais il y a deux aspects que j'aimerais que nous évoquions, même à grand trait. C'est souvent l'intérêt d'ailleurs de ces événements que d'apporter un éclairage sur des populations quasiment oubliées ou ignorées. C'est d'une part la présence de tous ces immigrés algériens favorables au FLN dans la région parisienne dès cette époque. On est très tôt, là on est en 1961.
Oui. Il y a eu à cette époque-là une émigration qui est d'ailleurs accentuée par la guerre, parce que les gens fuyaient les conditions d'un pays en guerre. Mmh. Et donc, on peut évaluer le nombre des Algériens en France autour de 400 000, 400 à 500 000, la moitié étant dans la région parisienne. Et donc, ces gens-là sont dans la périphérie, souvent dans des bidonvilles, notamment ceux de Nanterre, qui sont les principaux, et ils sont un peu marginalisés dans la société. Et ce sont des travailleurs et surtout des hommes.
Et puis, mais nous n'aurons pas le temps de développer, dans les forces de l'ordre, dans les forces spéciales mises en place par la préfecture de police, la présence de ces Algériens harkis, donc, et cette présence va contribuer à la mauvaise image des harkis dans l'opinion publique.
Oui, bien que le terme de harkis soit assez impropre en l'occurrence.
Alors évidemment.
Hein, c'est la force de police auxiliaire, appelés couramment harkis.
Les assimilés harkis,
voilà,
si l'on pourrait dire.
Et qui ont eu très mauvaise presse dans l'opinion française quand on a su quel était leur emploi, et qui ont contribué à ce malentendu de l'opinion française par rapport au phénomène des supplétifs pendant la guerre d'Algérie.
Voilà un sujet qui pourra être débattu sans doute au cours des 14e rendez-vous de l'histoire de Blois qui s'ouvre aujourd'hui même avec pour sujet l'Orient. Donc les historiens et les amoureux de l'histoire seront à Blois ce week-end. Marcel et Paulette Péju, le 17 octobre des Algériens aux éditions La Découverte, suivi de la triple occultation d'un massacre par Gilles Manceron, que je remercie beaucoup d'avoir été des nôtres pour faire la lumière sur un sujet dont on peut dire au propre comme au figuré et avec toute l'épaisseur du temps qu'il reste particulièrement ténébreux. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors vous savez Franck, moi je pense beaucoup à vous quand je prépare cette émission.
Mais c'est gentil ça.
Je me suis dit, histoire d'un jour plus l'ombre d'un doute, c'est pas possible, il doit être stressé notre Franck Ferrand. Alors j'ai fait une émission pour vous. Nous allons voir ensemble comment vaincre le stress, mais de façon naturelle, des petits exercices à faire qu'on va vous proposer de faire avec nous. Si vous, vous êtes stressé pour n'importe quelle raison, n'hésitez pas à nous appeler 3921 ou
Europe 1.
Je me fais faire
exactement
un CD et je me le passe en boucle.
Ok.
À demain Julien.
Merci Franck, à demain sur Europe 1.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.